Radio Django, la rose des vents.
Voilà, on passe à la rose des vents à 18h26. C'est le plaisir d'accueillir sur le plateau de Django Alain Tito, qui est rédacteur de Voix d'Exil. Bonsoir Alain Tito.
Bonjour, bonsoir Fabien.
Alors Alain Tito, tu nous proposes aujourd'hui de faire un zoom sur la situation préoccupante qui sévit malheureusement en République démocratique du Congo, avec évidemment en toile de fond les élections présidentielles qui n'auront peut-être jamais lieu en décembre de cette année.
Oui, effectivement Fabien, en République démocratique du Congo, les derniers mandats du président actuel de la République, Joseph Kabila, expire le 19 décembre 2006. Or, le gouvernement annonce d'ores et déjà son incapacité à organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. C'est alors qu'un dialogue s'est engagé entre les différents leaders de la classe politique pour trouver un consensus autour de l'organisation de ces élections. Mais une frange de politiciens soupçonne que ce dialogue serve d'alibi pour le chef de l'État qui aspirerait à prolonger son mandat et à modifier la Constitution en vue de se présenter à un troisième mandat.
Ouais, donc si j'ai bien compris, c'est un chef d'État qui s'agrippe, qui s'agrippe au pouvoir.
Tout à fait, tout à fait. Alors, pour en parler, mettre en perspective cette situation chaotique de la République démocratique du Congo, nous avons invité les journalistes, écrivains, dramaturges congolais Germain Dimbenzi Baedi. Bonsoir Germain.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Radio Django. Et nous souhaitons nous entretenir avec vous sur la situation qui sévit particulièrement en République démocratique du Congo et de l'engagement des hommes et des femmes de lettres congolais par rapport à cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Alors la première question que je vous pose est celle de savoir, que pensez-vous du soulèvement populaire actuel en République démocratique du Congo ?
Merci beaucoup pour la question. Curieusement, on en parle beaucoup ces derniers temps, les soulèvements populaires. Mais s'il faut peut-être remonter dans l'histoire, les soulèvements populaires surviennent très souvent quand les peuples en ont vraiment ras-le-bol. C'est les ras-le-bol populaires. Quand les peuples en ont vraiment marre, ils arrivent à se soulever. Maintenant, la question est-ce la solution ? Je ne sais pas, mais pour le moment, je pense que toutes les voix s'accordent à dire que nous voulons des élections, nous voulons les respects stricts de la Constitution, bien que je n'y crois plus moi-même. Mais pour le moment, ce qu'on attend, c'est que les autorités prennent les responsabilités pour respecter la Constitution et organiser les élections. Je ne sais pas comment.
Alors, je vous ai présenté comme écrivain, journaliste et dramaturge. La deuxième question est celle de savoir si la littérature peut-elle contribuer à l'émancipation politique du peuple, et plus particulièrement en République démocratique du Congo.
Oui, je peux dire oui. Généralement, oui, la littérature peut contribuer. C'est pourquoi on le fait d'ailleurs, parce qu'on y croit. Et dans les circonstances actuelles de la République démocratique du Congo, je pense que les rôles des écrivains ou des hommes de lettres est très crucial même. L'homme de lettres doit être celui qui éveille les consciences, celui qui réveille les peuples. Donc je pense qu'on a, un très grand rôle à jouer. Donc je crois que à partir de nos écrits, de nos œuvres, de nos interventions, on peut amener les peuples à prendre ses responsabilités, à éveiller les consciences.
Je vous ai présenté comme dramaturge et je reviens sur ça parce que la plupart des pièces de théâtre qui sont vues ici en Europe de la part des acteurs congolais, ce ne sont pas des pièces qui appellent vraiment à la conscience, qui ne réveillent pas vraiment politiquement le peuple. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je crois qu'il faut instaurer ce système qui fera que qu'on n'écrive pas seulement des pièces de théâtre en regardant, par exemple, des faits qui ne sont pas d'actualité. Moi, par exemple, j'ai écrit le procès Mobutu. Je sais que vous voulez arriver là. Le but, c'était quoi, en fait ? Le but, c'était d'essayer un peu de rétablir une sorte de notion de responsabilité dans l'environnement politique africain. Qu'est-ce qu'on constate très souvent ? Que dans les continents africains, d'ailleurs, c'est connu, où on a beaucoup de dictateurs qui gouvernent, qui violent les constitutions, qui commettent des graves crimes politiques, économiques, sociaux, mais qui, à la fin, s'en sortent indemnes. Donc, ils laissent le pouvoir, ils partent souvent, pas de leur gré, mais il n'y a jamais eu vraiment des procès. Voilà. Donc, les procès Mobutu, c'est un procès fait contre tout un système qui dure assez très longtemps en Afrique. Je crois que vous avez suivi les procès Issenabré qui s'est passé au Sénégal. Et je pense que une fois cette notion de responsabilité instaurée dans notre société, ça dissuaderait certains comportements qu'on déplore aujourd'hui.
Alors le procès Mobutu, aujourd'hui c'est Kabila qui fait comme Mobutu. Pouvions-nous nous attendre peut-être dans les prochains jours à une autre pièce qui s'intitulerait Procès Kabila?
Je ne sais pas si ça va s'intituler le procès Kabila, mais je reviens à ce que j'ai dit. Le problème, c'est que c'est un procès fait à tout un système politique, c'est tout l'environnement politique africain qui était visé dans cette pièce. Donc aujourd'hui, par exemple, si moi j'encourage l'initiative de juger l'ex-président tchadien Issenabré, et je crois que ça peut amener certains dirigeants, pour ne pas citer les noms, à se dire que non, attention, je dois me tenir, quoi. Je dois être très très correct dans la gestion du pays, parce qu'après, je dois rendre des comptes. C'est ça le problème. En fait, le but, c'est cette notion de responsabilité qu'on voulait.
Quel a été l'accueil réservé par les intellectuels congolais qui sont au pays et ceux qui sont ici par rapport à ce que vous avez écrit sur le procès Mobutu?
Bon, je peux dire que l'accueil c'était un bon accueil, je ne dirais pas très chaleureux, mais c'était un bon accueil. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, j'ai vu beaucoup de compatriotes, beaucoup d'Africains qui sont venus voir la pièce, qui nous ont encouragés. Et au niveau du pays aussi, il y a eu des échos. Donc je crois qu'ils ont suivi. Mais maintenant, la question est-ce qu'ils ont vraiment compris les messages?
Si nous revenons à l'actualité au Congo, est-ce que vous pensez que l'art congolais devrait être un art militant nécessairement?
Moi, même quand j'étais tout petit à l'école, nous avons connu beaucoup d'auteurs africains ou négro-africains. Souvent, la base, c'était de militants. C'était des militants parce qu'ils devraient combattre pour l'indépendance du pays, la décolonisation, tout ça. Ben aujourd'hui, la situation a un peu changé, mais je pense que le côté militant doit rester.
Vous êtes dans ce monde-là. Est-ce que vous sentez assez d'œuvres qui sont produites par les auteurs congolais, par les dramaturges congolais, qui font vraiment ce que j'appellerais un inventaire sévère contre ce qui se passe dans le pays? Est-ce que vous le sentez? Vous avez écrit le procès Mobutu. Est-ce que vous en connaissez d'autres qui ont écrit des œuvres qui dénoncent un peu ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe aussi quelque part en Afrique, parce que la situation est presque générale?
Oui, il y a quand même beaucoup de voix qui se sont élevées. Ils continuent à s'élever. Hein. Oui, il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont essayé un peu d'épingler ce système. Il n'y a pas qu'au Congo, mais c'est un peu partout en Afrique. Oui.
Et oui. Vous pensez que ces œuvres-là, les œuvres produites sont en train de faire bouger les choses? Les mentalités sont en train d'évoluer vers la lutte contre les dictatures, ou bien il y a, comme je dirais, une stagnation?
Mais je vais dire que moi, j'ai envie de dire oui. J'ai vraiment envie de dire que oui, ça fait bouger les choses. Mais est-ce qu'on a atteint les niveaux voulus? C'est ça. Donc nous devons continuer à écrire, continuer à faire ce que nous faisons pour essayer un peu d'amplifier un peu la pression. Mais je crois que c'est à nos compatriotes, à nos frères africains, par exemple, à tirer parti de ce que nous faisons. Voilà.
Et quel rôle joue la diaspora congolaise aujourd'hui par rapport au changement de régime en RDC, et qui pourraient être les acteurs possibles de ce changement au niveau de l'extérieur?
La diaspora congolaise, en général, fait beaucoup de bruit. Il fait parler d'elle, cette diaspora. D'ailleurs, il suffit seulement de voir ce qui se passe au Congo. Le gouvernement est très, très nerveux quand il s'agit de la diaspora. Donc, moi, je pense que cette diaspora-là a un rôle très, très important à jouer. Il le fait déjà. Il le fait déjà, mais maintenant, les résultats se font attendre. Mais moi, je crois en cette diaspora. Pour les dirigeants de demain, là, je reviens sur la classe politique d'aujourd'hui qui doit être renouvelée. C'est ça. Donc, il appartient à toutes ces personnes qui font partie de la diaspora d'essayer un peu d'apporter du nouveau, hein, d'essayer un peu de bouleverser les choses, de changer les choses en bien. Voilà.
Germain, une question qui me triture un peu l'esprit. Au Congo, nous avons des gens qui ont été opposants. Ils viennent dans le pouvoir, ils rentrent opposants. Et on a l'impression que le peuple est un peu laxiste. Des gens qui ont travaillé avec Kabila, ils ont été avec lui. Une fois révoqués, ils redeviennent opposants. Ils s'opposent à Kabila. Ils demandent au peuple de descendre dans la rue. Et le peuple suit. C'est comme si ce peuple-là ne s'est pas vraiment déterminé. Donc on est beaucoup plus sentimentaliste que rationnel, on dirait.
Justement, j'ai constaté aussi que souvent le peuple est pris en otage par les politiques qui ne veulent qu'une chose, de toute façon. Les pouvoirs, c'est comme on dit, c'est la politique du ventre. Mais je crois que si on parle du soulèvement populaire, je pense qu'il est important que les peuples prennent ses responsabilités. Que les peuples sachent qu'il est souverain. Il ne doit pas être dirigé par une personne, politicien soit-elle, mais en tout cas, les peuples doivent savoir qu'il est souverain, qu'à lui seul, il peut changer les choses. Voilà.
Est-ce qu'au Congo, Kinshasa, on a besoin d'une négociation pour en arriver à l'effectivité de la démocratie, ou bien on a besoin de cette violence aujourd'hui qui s'abat dans le pays pour en arriver là? Donc,
je n'ai jamais été pour la violence. Je crois que la violence n'arrange rien. Mais je crois que le peuple doit prendre ses responsabilités. Donc, qu'il respecte la Constitution, c'est ce qu'on fait.
Okay. Merci beaucoup, Germain Dimbézi Bayedi, d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de la situation dramatique qui sévit en République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Merci.
On vous souhaite plein de succès pour la suite et de votre carrière également. Et bien entendu, un grand merci à toi, Alain Tito, qui, rappelons, est rédacteur pour le site d'information Voix d'Exil. Une interview à retrouver tout bientôt sur notre site www.django.fm.
Merci. Radio Django, le grand direct, 18-19h.